30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5e édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront... Du 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5e édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Dear Roof, The Saddies, À la Claire Ensemble, Fred Fortin, Daniel Romano, Joseph Edgar, So Cold, Folaxoid, Dust Holes, Matt Vezio, Bon Enfant, Jonathan Person, Fudge, Mélanie Venditti, Birds of Paradise et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
Les Apatrides Anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales
et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste
et même une minute coloniale. Les Apatrides Anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire.
Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition, cette première édition pour l'an 2020 de Pop en Stock. C'est l'épisode 211. Mon nom est Jean-Michel Bertillon. Pour recommencer la saison, je me suis dit que ça serait agréable d'embarquer tranquillement dans la saison des recherches sur la culture populaire avec des enregistrements qui ont été faits cet été. En fait, c'était super intéressant parce que j'ai enregistré ça durant l'année dernière et là j'ai eu à le monter et tout. C'est deux conférences qui ont été tenues lors du colloque du International Association for the Study of Popular Music. En fait, le colloque s'appelait Legacies and Prospects, the Past and Futures in Music. Puis, en fait, je vais l'admettre, c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de découvrir un peu qu'est-ce qui se fait en termes de recherche sur la culture populaire, mais du côté de la musique populaire. Et malgré que j'ai pas fondamentalement un grand background par rapport, du moins pas un grand background théorique, même pas un grand background pratique, puis même pas une si grande connaissance du corpus de la musique populaire, j'ai quand même eu, à mon avis, des super belles conversations. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec les deux chercheurs dont, que je vais présenter à l'instant. Donc, la première, c'est Marion Brachet, qui est à l'École des autres études en sciences sociales. Elle présentait une communication qui s'intitulait « Futurism, Muse Adaptation to Popular Music's Evolutions » et décrit assez rapidement comme « Cet article vise à explorer comment Muse, un groupe britannique fondé en 1994 et aujourd'hui largement acclamé, s'est imposé tant dans les récentes transformations de la musique populaire que dans sa propre histoire. Par l'intermédiaire de Matt Bellamy, le membre le plus médiatisé du groupe, le trio a fait des choix intéressants révélant une conscience aiguë des évolutions de leur marché. » Ces décisions sont prises tant au niveau du contenu musical que de l'imagerie, voire des déclarations controversées, notamment « la guitare est devenue un instrument de texture plutôt qu'un instrument principal ». Donc j'ai pu j'ai pu avoir cette conversation avec Marion Brachet que je vous fais écouter à l'instant. We'll be right back. Bon, on est encore dans le contexte du colloque. En épluchant la programmation, un des trucs qui... En fait, j'allais chercher tous les panels qui m'intéressaient, toutes les communications qui seraient intéressantes pour le projet pour mon stock. Et à plusieurs reprises, en fait, j'avais des gros moments passionnés d'affection pour qu'est-ce qui était dit ou qu'est-ce qui était pour être abordé. Mais en complémentarité à ça, un espèce de sentiment de je ne peux pas tenir une conversation sur ce sujet-là. Et on en a un peu parlé auparavant. J'avais déjà suite à la... Puis un peu avant la tournée pour le dernier album... Second Law? Non, je me trompe.
Simulation Theory,
pardon. Pour la tournée de Simulation Theory, j'avais commencé à travailler sur un article sur l'idée de la construction narrative autour des derniers albums de Muse. Quand je suis tombé sur ta communication, je fais « Ah! Il y a quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler! » Et pas sonner comme un total hurluberlu ou comme être totalement perdu théoriquement. Donc, juste rapidement, qu'est-ce que tu es venu présenter?
Le titre du colloque cette année, c'était « Héritage et futur des musiques populaires ». Quelque chose comme ça. Et donc, l'appel à communication s'est fait vraiment quelques semaines, voire peut-être même une semaine, je sais pas, après la sortie de Simulation Theory.
Okay.
Et donc, en fait, moi, je ne travaille pas sur Muse à la base pour ma recherche principale. Mais mon sujet m'est un petit peu venu à l'esprit comme ça assez rapidement en pensant à voilà, cette idée des héritages de musique populaire et de vers quoi on va peut-être aller.
Ok.
Parce que donc ce dont j'ai parlé en fait, c'est donc surtout de Simulation Theory, le dernier album de Muse, et de sa place par rapport à l'évolution du groupe.
Okay.
Parce que donc moi quand j'ai entendu l'album, forcément ce qui m'a marqué c'est encore plus qu'avant la prédominance des sons synthétiques et la discrétion de guitares rock comme il y en avait encore sur Jones précédemment et même sur Second Law où il y avait des choses très agressives à la guitare, même si c'était pour une pièce du dubstep, ça restait voilà, vraiment quelque chose de fondamentalement rock.
Okay.
Même si Muse a toujours expérimenté avec les sons électroniques, bien sûr. Mais donc il y a vraiment quelque chose voilà, qui m'a interloqué et ça m'a donné envie de parler un petit peu des évolutions actuelles du rock et des perceptions du coup qu'on en a, parce que c'est assez courant qu'il y ait un mouvement rock qui se forme et puis qui va finalement se diluer un peu dans des cultures plus mainstream, pop, comme ça. Et Simulation Theory illustrait, il me semble, pas mal dans un contexte particulier ce qui arrivait en ce moment au rock mainstream, en tout cas, parce que bien sûr qu'il y a plein d'autres formes de rock qui existent, mais de manière moins visible.
Okay.
Donc voilà, je voulais prendre Muse vraiment comme exemple d'un cycle de rock, ici rock plutôt alternatif, et de sous quelle forme on le trouve encore en fait dans les choses qui se vendent énormément en musique pop aujourd'hui.
Wow.
Mais donc ce qui est intéressant avec ce qui t'intéresse toi, c'est que donc moi je commence là j'ai juste commencé à travailler sur Muse selon cet aspect, mais en parallèle mes recherches principales portent sur la narrativité effectivement, donc dans les musiques rock et folk, à la base surtout rock progressif pour mon mémoire de master.
C'est un beau sujet.
Voilà. Mais donc pour ma thèse, je travaille sur les récits des musiques rock et folk, mais beaucoup plus anciennes. Pour l'instant, je suis années 60-70.
Ok.
Mais du coup, tu es vraiment à l'intersection voilà, de deux sujets que j'ai traités différemment. Alors du coup, je suis quand même très familière avec Muse parce que je suis fan à la base, hein, tout simplement.
C'est drôle parce que il y a des trucs, par exemple, je trouve que Dig Down rappelle énormément les chansons de prisonnières. Il y a comme quelque chose, une espèce de cadence. Je n'ai pas le lexique pour être capable de correctement parler musique. Tu vas me voir tirer beaucoup plus vers la sémio. Mais il y a cette espèce d'idée-là. Je crois que c'est beaucoup plus explicite par rapport à Second Law. Dans Second Law, j'avais l'impression de, comme tu disais, il y a une chanson qui est clairement une pièce qui est tirée du catalogue de Skrillex, il y a une pièce qui est clairement tirée d'un catalogue plus Radiohead. Si on peut dire, ou esque, je ne sais pas exactement comment on conjugue celui-là.
Est-ce que ça marche?
Mais cette idée-là d'avoir des chansons qui sont plus vers le folk, pour moi, Dig Down n'est quand même pas très loin.
Oui, mais tout à fait. Alors en fait, je ne sais pas si tu avais suivi ça. Alors dans je ne sais plus quelle interview récente de Muse, Matthew Bellamy et Dominic Howard expliquent que leur projet d'origine pour Simulation Theory, ça aurait été de faire un album acoustique. Et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mentionné alors des années avant. Ils avaient dit qu'ils étaient tellement dans la surenchère constante, dans les choses très dramatiques, orchestrales, etc.
Ouais.
Qu'au bout d'un moment, pour se recentrer, ils auraient peut-être besoin de faire quelque chose stripped down, comme ils disaient, voilà, de faire un retour aux bases en acoustique. Et quand on entend toutes les toutes les versions alternatives, les b-sides de l'album.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Effectivement, il y a beaucoup de choses acoustiques. Et la version acoustique de Dig Down est une version gospel sur...
Wow.
Oui, oui. Okay. Avec de beaux chœurs,
oui.
Piano, les... Ouais,
ok, ah, c'est super intéressant ça.
Ça sonne vraiment très bien. Effectivement, donc oui, ça marche complètement avec ce que tu dis. C'est, oui, on retourne à des chants, oui, qui ont vraiment une origine folk populaire, mais qui sonnent complètement différemment pourtant dans la version normale de l'album. Mais effectivement, ça part complètement de là, de ce récit, voilà, qui est quelque chose qui monte du peuple, et c'est quelque chose, oui, qui leur tient beaucoup à cœur, Muse, ce genre de choses.
Mais là, dans ta présentation, ou du moins de ce que j'ai compris, c'est que Muse, avec Simulation Theory, est allé beaucoup plus dans l'électronique auparavant. Donc en voulant, je trouve ça intéressant qu'ils ont fait veut faire quelque chose de strip down.
Oui, ils ont complètement changé de direction, ça c'est clair.
Wow.
Après peut-être que ça s'est fait à cause je vais prendre parti, des producteurs qu'ils ont eu pour cet album. Mais pareil, je ne sais pas à quel moment le choix des producteurs s'est fait, mais ils ont travaillé avec Timbaland et Shellback sur cet album, donc qui a travaillé avec Pink, Britney Spears, donc effectivement des choses pas très acoustiques a priori.
Mm-hmm.
Donc je ne sais pas s'ils se sont tournés vers eux après avoir changé de projet.
Ouais.
Ou si voilà, ils étaient quand même sur leur idée d'acoustique, et puis finalement ils se sont laissés entraîner par l'autre mouvance de leur producteur.
Ben c'est ça, c'est qu'en même temps l'hypothèse que moi j'explorais, c'est cette idée-là qu'avec Simulation Theory, on réussissait à mettre les dernières pièces pour faire le grand opéra cosmique cohérent. Mmh. Qui date, je dirais, à peu près de
Black Holes
and Revelations, ouais, probablement plus. Malgré que dans Simulation Theory, dans la tournée, ils reprennent des pièces d'avant.
Oui.
Il y a quand même beaucoup de...
Oui, toujours, bien sûr.
C'est peut-être moi qui ai comme une impression un peu étrange, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils allaient, pour ma part, de les voir, qu'ils allaient autant loin là, qu'à la showbiz. Moi, j'avais jamais entendu des pièces de showbiz.
Ils ont joué de showbiz, tu les avais sur cette tournée-là?
Ouais, ou...
Okay.
Parce
qu'effectivement, ça...
Origins of Symmetry,
mais
oui,
ouais, je pense Origins of Symmetry, parce que Showbiz est très très exclu de cette liste, en tout cas des gros concerts, depuis un moment quand même.
Ben,
c'est assez rare en tout cas.
Ok, j'avais comme...
Après voilà, je ne l'ai pas vu sur cette tournée, mais il me semblait que dans cette liste, je n'avais pas vu de Showbiz, donc...
Ok. Mais c'est ça, c'est peut-être moi qui... c'est moi qui serais dans le tard dans ce cas-ci, je connais quand même pas assez bien le corpus. Mais c'est qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ayant un peu pigé dans tous les albums, ils réussissent à enfin construire un truc qui est très cohérent, qui devient la domination politique, l'exode vers les étoiles, ou du moins la domination politique qui devient une espèce d'obligation de quitter la planète. Une fois qu'on quitte la planète, on cherche les outils pour le faire. Il y a toute la thématique post-humaine. On commence à faire une hybridation entre l'être et la machine, entre le vivant et le mécanique. Une fois que le vivant et le mécanique est complètement allié, ben là, il y a des humains ou des plus qu'humains qui partent, et il y a des plus que machines qui restent. Là, il commence à avoir des émotions qui se développent autour de ces machines-là. C'est tendance à... Bon, en fait, il y a énormément beaucoup de romantisme là, dans Muse.
Oui,
on dit toujours, OK, bon, il y a des robots en amour, c'est extraordinaire. Ouais. Mais ensuite, on commence un peu à prendre ces pièces-là qui sont beaucoup plus dans la métaphysique cosmique de 2001, l'Odyssée de l'espace, puis on a l'impression que les humains qui sont partis sont devenus proches de ces entités de l'espace, et les poussières lunaires et solaires, et ainsi de suite. Et là, il y a cette grande consolidation qui se fait entre ces forces-là, puis bon, évidemment, à la manière de 2001, il y a un grand flou sur qu'est-ce qui vient après le post-humain. C'était beaucoup plus, à mon avis, c'était beaucoup plus compliqué refaire cette histoire-là dans sa tête avec des albums comme Drones, avec des albums comme... Oui. Je crois pas que j'ai vu Second Law en live, mais Drones restait quand même une espèce de tournée où tout était en tableau.
Oui.
Et là, Simulation Theory est vraiment un récit complet, de début à la fin. Plus ou moins?
Drones, je trouve quand même que la trame est assez... assez linéaire, on a une vraie fin à la fin de l'album.
Oui.
Je crois que c'est assez explicite quand même. Après oui, c'est vrai qu'il y a une forte cohérence dans Simulation Theory aussi, mais c'est c'était déjà assez présent dans Jones, je trouve.
Ok, c'est ça. Ben, peut-être que je compare probablement beaucoup plus les performances live que les albums eux-mêmes. Ah, j'ai pas vraiment fait de lecture de Simulation Theory comme un album, tu sais, mais je suis convaincu que, étant un peu... pas obsessif, c'est quand même un gros mot, mais il y a une forte réputation autour de Matt Bellamy comme étant quelqu'un qui a une vision très protégée, qui sait exactement ce qui s'en va.
Mais après, c'est vrai que j'ai possiblement une vision déformée à cause justement de mon obsession à moi pour les récits, de effectivement prendre les albums et de lire tout d'un coup, ce qu'effectivement pas beaucoup de gens font pour autant. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être une vision trop linéaire.
Mais
c'est
non,
vrai que,
non.
C'est vrai qu'on est en contact en concert, c'est vrai que c'est très important aussi. Et que c'est là qu'on voit la cohérence qu'ils ont pu construire effectivement au fil des albums. Donc,
mais moi, c'est vraiment en termes de...
C'est bien qu'on n'ait pas les mêmes...
Moi, c'est comme le spectacle live comme pièce de théâtre.
Oui.
C'est plutôt ça.
Ce qu'ils cultivent de toute façon...
Des fois ils réussissent et des fois ils réussissent moins.
Oui, c'est ça.
C'est, c'est toujours, et à mon avis, le dernier réussissait le plus. Mais là, tu m'as piqué totalement ma curiosité. C'est quoi la cohérence de l'album Simulation Theory? Qu'est-ce que tu as lu, toi?
Alors, Simulation Theory, je trouve moins une vraie histoire que dans Jones. Après, la cohérence thématique reste très forte. On part des... finalement la trame reste assez similaire avec celle de Jones. On part vraiment de la concentration sur les robots, l'intelligence artificielle, la place que peut encore avoir l'homme. Après on va essayer de se raccrocher aux histoires d'amour, on se raccroche à l'autre, vraiment en relation humaine, something human, même get up and fight, où c'est vraiment il faut qu'on se révolte contre tout ça, il faut qu'on trouve notre côté humain, mais il faut que je le fasse avec toi. Il y a voilà, quelque chose qui est toujours très fort du côté romantique, voilà, que ce soit du côté romantisme politique ou au sens le plus banal du terme. Et sur la fin, The Void, voilà, on part effectivement, comme tu disais, vers le cosmique, vers les étoiles. On cherche une échappatoire, une rédemption. Finalement, The Resistance déjà finissait sur une note un peu similaire, je trouve. On est plongé dans les robots. On cherche une échappatoire entre humains, avec l'amour, voilà, cette proximité romantique. Mais l'échappatoire doit être effectivement hors de la planète dans laquelle on est plongé, où le chaos a
parce qu'on l'a démoli, fondamentalement, je crois qu'il y a toujours cette idée.
Parce que quelqu'un l'a démoli.
Il n'y a pas d'avenir pour la planète sur laquelle on apparaît actuellement dans Muse. Quelles sont tes expériences de... C'est drôle parce que pour moi, écouter Muse, ça devient toujours une espèce de fluctuation de... je suis d'accord, je suis en désaccord. Il y a beaucoup de moments, non pas du niveau musical, parce que bon, c'est pas mon expertise, mais vraiment de... Quand ils ont pris cette tournure-là avec Jones, qui était très militaro-industriel, là, il y a eu une espèce de crainte de qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que cette musique-là est une hymne ou une dénonciation? Qui est toujours un peu, à mon avis, exacerbée en présence publique. Quand tu es en show live, tu fais « Ah, ben, je pense pas nécessairement que les gens sont... » entièrement en train de voir ça comme dénonciation.
Oui, ça c'est justement, je les ai vus sur la tournée de Jones, et donc ils jouent Psycho, ils ouvraient avec celle-là, il me semble, et ça m'a beaucoup fait penser au spectacle de Roger Waters, qui jouait The Wall en entier de Pink Floyd, et donc pareil, The Wall, bien sûr, ça se termine à la fin sur une énorme dénonciation des totalitarismes. Mais en concert, on a des choses sur scène qui miment des choses fascistes et totalitaires. Et dans le public, on hurle les paroles. Et si on s'arrête deux secondes, on se dit « Qu'est-ce que je suis en train de hurler quand même ?» C'est étrange. Et sur Psycho, c'est exactement la même chose qui se passait, en fait. mais oui, Muse aimant cultiver une sorte de théâtralité, de rage. C'est vrai que ça... L'ambiguïté se cultive très bien, et c'est clair qu'il joue là-dessus.
Je suis content qu'on l'ait vécu de la même
manière. Je vois très bien ce dont tu veux
parler.
C'est
ça, il y a quelques moments de comme... est-ce que... Ben c'est ça, on en a parlé un peu avant d'enregistrer, mais il y a une tension entre... Qu'est-ce qui existe toujours en musique populaire, là, cette idée-là d'un groupe qui atteint un certain succès jusqu'à temps qu'ils deviennent des vendus. Et là, le brouillement du message, pour moi, t'sais, au-delà du fait que d'avoir un groupe pop qui se vend à un label, par exemple, ou qui finit par devenir conventionnel, ou qui se plie un peu plus à l'opinion publique, ça, c'est un truc. Mais quand il y a des ajouts idéologiques très clairs, ça, essentiellement, là, pour rendre ça plus simple, ça ne me dérange pas qu'ils sell out. Tout le monde, tous les artistes ont le droit de faire l'argent. C'est pas un problème. Ouais. Mais quand tu sell out vers quelque chose qui est ambigu, dans le meilleur des cas, là, c'est là où je suis comme « Oh, il
Oui, et puis c'est clair que ces deux moments, de toute façon, ne sont pas... sont pas en synchronisation chez Muse parce qu'ils ont, signé chez Warner pour Absolution.
Okay.
Donc ça fait un moment hein, qu'ils sont dans chez une major.
Ouais, c'est vrai.
Et les choses vraiment plus alors donc politiques dans un sens très large parce qu'il y a rarement des choses très précises. Ça commence avec Black Rose un petit peu. On va penser, enfin oui, on va y avoir des thématiques un peu plus guerrières, mais en restant voilà, sur des choses vraiment générales. Enfin voilà, où l'auditeur est invité à se battre pour ses droits, mais on ne sait pas de quel droit il s'agit de toute façon. Donc bon voilà. C'est pour ça que je dis politique dans un sens très large. Après, l'ambiguïté donc, est cultivée au niveau du spectacle sur les choses comme Drones. Après, je pense que la tradition de ce qu'on entend chez Muse fait que c'est pas une ambiguïté qui me fait trop peur non plus, parce que je sais que Matthew Bellamy, ce genre de choses, pour lui, c'est inspiré de 84, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est clair que c'est dans la dénonciation, mais que ça reste amusant de jouer de cette ambiguïté pour l'effet que ça donne, pour l'effet de foule que ça donne en concert en fait. Et puis comme je disais, de toute façon à la fin on termine sur des choses de soit pessimiste avec une planète qui en peut plus, qui a bout de force, ou une rédemption en partant de la planète. Donc il y a toujours une échappatoire bon plus ou moins optimiste qui est proposée à ces choses dystopiques en fait sur lesquelles repose le reste de l'album. Donc moi je perçois l'ambiguïté au niveau du spectacle. Après je vois que tu fronces un peu le sourcil, donc peut-être que tu n'es pas d'accord.
C'est pas une réponse. Ben en fait, c'est pas une réponse qui me rassure. C'est pas ça l'objectif actuellement. Mais ça c'est somme toute très personnel. Je peux pas faire la paix avec ça. Je me retrouve à avoir des.
Je peux comprendre.
C'est ça. Les premières demi-heures sont toujours trop fortes pour moi par rapport à ça.
En concert, tu
veux? Ouais, effectivement. L'album est une expérience qui se vit totalement différemment parce que tu peux pas. On peut pas nécessairement orienter une interprétation de manière aussi efficace dans un album que dans un spectacle. Le spectacle a vraiment toute cette... Tu sais, je parlais de militaro-industriel, mais tu sais, cette idée-là de les strike drones, la société de surveillance, il y a des choses dans le spectacle qui nous banalisent le 84, par exemple. Fait que quand je pense des sourcils, c'est pas nécessairement par rapport à ce que tu dis, parce que je suis entièrement d'accord, puis c'est super qu'on a la même expérience du spectacle. Mais je crains quand même les débordements, fondamentalement.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu à double tranchant, parce que effectivement, en concert par rapport au spectacle, à la fois tous les effets sont vraiment renforcés, et donc ça fait bien plus peur que quand ça vient juste de notre chaîne IFI. Et en même temps, effectivement, il y a cette sorte aussi de décontextualisation, parce que les gens ils viennent en concert, en groupe, pour s'amuser, et donc ils ne sont pas forcément là pour prendre au sérieux tous les signaux et les effets de caméras de surveillance et le sergent militaire qui hurle des choses horribles dans la salle de spectacle.
C'est tellement qu'ils prennent ça trop au sérieux.
Non, mais c'est ce qui se passe. Enfin, c'est normal que certains le prennent au sérieux. C'est quand même un spectacle qui est très fort.
Oui.
Donc je pense que c'est sain de prendre ça un peu au sérieux quand même. Enfin, pas jugement pour ceux qui viennent au concert, pour ceux qui
Non, absolument pas, absolument pas.
Mais c'est pour ça que je dis que ça double tranchant vraiment en fonction des sensibilités. À la fois ça renforce tous ces effets d'oppression, mais en décontextualisant, voilà, ça peut banaliser. C'est ce que tu disais, d'où tout le fait que ça puisse être encore plus inquiétant.
Ça, là, j'ai l'air d'un.
Voilà, les choses sont exagérées, font peur autour de nous. Et on voit des gens qui ont l'air d'en avoir rien à faire, et donc c'est encore plus inquiétant.
Mais en fait, tu dis ça, puis peut-être que c'est là où je commence à sourire, c'est qu'effectivement, ça devient une métaphore parfaite pour qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement, tu sais, qu'il y a des gens qui sont dans au seuil de l'anxiété complet, puis il y a des gens qui sont juste comme, continuons. Fait quoi, non, ok, peut-être qu'au final, ça devient un spectacle qui est beaucoup plus réflexif par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de vivre. À rire ou à pleurer. Oh. Lors du panel, est-ce que tu t'es retrouvé à avoir des idées croisées par rapport à d'autres personnes qui ont présenté? Est-ce que la pensée a été alimentée par d'autres trucs?
Alors, ouais, le panel est très intéressant. Par contre, ça va nous faire changer un peu de sujet parce que donc, alors le panel en fait.
Mais je parlais pour toi personnellement, ouais.
Oui, non, bah, alors, en fait, c'était un panel qui était plutôt axé sur sur l'idée de genre musical.
Okay.
La présentation avant moi était sur Bon Iver et la musique post-genre que ça travaille. Du coup, on était sur des choses. Déjà qui mettait en place beaucoup de notions théoriques, voilà, sur le genre musical et à partir de quoi ça se calcule entre guillemets.
Ouais.
Du coup, bah, ça mettait vraiment plein de choses en place pour ce que moi je présentais, mais avec des notions vraiment très techniques et précises, parce que Bon Iver, voilà, on part sur des mélanges qui sont qui partent de musique, oui, voilà, plus spécifique, avec de la des musiques folk, électroniques, enfin. Oui, donc c'est quelque chose de très spécifique et très vraiment très intéressant, parce que c'était une musique qui est vraiment très très riche, alors que moi j'étais un peu plus sur une dichotomie, maintenant ils faisaient du rock, maintenant ils font de la pop, genre, je caricature, mais les outils conceptuels théoriques se croisaient très bien, c'était super intéressant de parler de genre musical dans des contextes aussi différents. La dernière présentation était sur c'est une collaboration entre musiciens classiques et bluegrass.
Ah ouais.
Donc on est encore sur les questions vraiment d'identité et d'authenticité de genre et comment est-ce qu'on peut faire des hybridations, est-ce que c'est accepté, comment ça marche.
Wow.
Parce que c'est vrai que les questions de genre sont toujours confrontées, remises en question à cause des hybridations. C'est ce qui se passe chez Muse, hein, complètement. Et la base était voilà, sur des fondations alternative rock, ce qui est déjà une définition large du rock, mais le renouvellement de leur public montre bien qu'ils ont un petit peu dépassé ces bornes-là.
Oh, absolument, absolument. Oh, oui, oui, oui. Et est-ce que... C'est quoi les conclusions par rapport à cette transition-là qui est en train de se faire de Muse, d'un rock plus alternatif? C'est une expression que je pensais qu'il n'existait plus, mais...
Oh, bon, je pense que ça a assez existé pour l'utiliser encore. Bon,
non, mais c'est fantastique. Je suis content parce que je me sens toujours
pour moi, donc,
très vieux quand je l'utilise. Tu sais, rock alternatif, tout le monde est comme, ouf, ouais, les années 90.
Bah, non, mais justement, ça faisait partie de leur identité quand ils ont commencé.
C'est vrai.
Et c'est ça qui fait qu'ils ont évolué. Donc non, je pense qu'il faut garder le terme, même s'il est peut-être un peu daté maintenant, mais il dit encore quelque chose.
Et c'est ça, c'est quoi les conclusions, cette transition-là vers le plus électronique?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, encore dans une interview récente, suite à Simulation Theory, Matthew Bellamy a dit que le groupe conservait la volonté de rester pertinent, il me semble que le mot était relevant, comme groupe de rock. Alors que, très manifestement, musicalement, ce rock ne veut pas dire la même chose que quand ils ont commencé. Donc, pour moi, ce qui se passe très simplement, c'est que on ne peut plus les classer dans le genre du rock si on prend une définition étroite du genre, c'est-à-dire une définition voilà, qui va avoir une identité très précise, qui va avoir une forme d'authenticité à laquelle on veut s'accrocher. La Muse, ce qu'ils veulent faire, c'est donc rester un groupe de rock, mais tout simplement dans une définition large, qui veut se nourrir de toutes les hybridations, de toutes les musiques plus ou moins mainstream environnantes. Mais qui vont quand même garder des traces de la base rock dans leurs singles qui marchent encore très bien. Les guitares, elles sont pas absentes. Elles sont là, mais ce sont des signes, par contre, vers une époque qui est un peu révolue pour eux, vers laquelle ils ne vont pas revenir en tant que tels. Mais justement, c'est quelque chose qui a été cultivé dans une approche particulière sur cet album-là, parce que moi il me semble que c'est un album qui s'inscrit vraiment dans cette sorte de mode en fait assez récente du rétro-futurisme.
La pochette en tient compte énormément.
Bah, voilà, déjà avec la pochette, on est dans Ready Player One et choses comme ça directement. Et justement, dans leur approche, les éléments rock, enfin voilà, tout ce qui va faire signe vers un contexte rock, c'est ce qui va représenter le passé. Donc ça reste important. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que quand ils, en utilisant des instruments comme la guitare électrique, la basse et même les percussions acoustiques, qu'ils ont un pied dans le passé à cause de ça.
Mais c'est très intéressant, ouais, ça, comme perspective.
Et donc, voilà, toutes leurs expérimentations électroniques avec la laptop music, ça, c'est ce qui va représenter le futur. Alors qu'au passage, c'est très inspiré des musiques électroniques des années 80, la Tangerine Dream, choses comme ça. Donc, c'est très paradoxal, mais super intéressant. Mais du coup, c'est les éléments rock qui récupèrent cette connotation vintage. Finalement.
De rétro,
voilà,
et
rétro,
l'électronique qui vient le futurisme.
Voilà, c'est futurisme.
Donc, il y a une illustration de leur projet idéologique et même de leur projet esthétique dans l'usage même des instruments. C'est incroyable, ça. Wow, merci, merci énormément.
Ouais, c'est... Ben, avec plaisir. C'est mais vraiment... c'est vrai qu'ils en parlent pas mal. C'est pour ça que ça... Enfin, c'est intéressant à étudier Muse parce qu'ils sont vraiment très conscients dans leur démarche et surtout Matthew Bellamy qui a effectivement toujours une big picture en tête dans, mm-hmm. dans toutes ses approches. Mais oui, non, ça c'est vraiment quelque chose. Enfin, il parle pas de rétrofuturisme spécifiquement. Mais il dit clairement qu'il veut encore plus que mélanger les genres musicaux, mélanger les époques musicales. Et voilà ce qu'il dit clairement, c'est que le rock, c'est leur pied dans le passé, et les ordinateurs, les sons synthétiques, c'est leur manière d'expérimenter avec des productions qui vont sonner futuristes d'une manière ou d'une autre. Et Dig Down, justement, dont tu parlais, est un bon exemple pour ça, parce que fondamentalement, c'est une base de chansons gospel, mais qu'ils ont mixé de manière absolument pas vintage. Enfin,
oh, wow! Marion, merci énormément. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour tout. Ça a été un plaisir de te parler.
Ça fait plaisir.
Bon, mais j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. En fait, c'était super. Il y avait énormément de contenu. C'était vraiment... Bon, bref. Je me rappelle d'avoir été extrêmement enthousiasmé lors de cette rencontre-là, puis en le réécoutant, je suis encore enthousiasmé. Et maintenant, en le diffusant, évidemment, ça me fait encore plaisir. La deuxième présentation, en fait, elle était faite par Megan Lapierre, qui est au Queen's University. Sa présentation s'intitulait Fangirl, Empowering Feminized Popular Music Fan Practices in the Digital Era. Donc évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'était super, super intéressant comme présentation. Megan Lapierre décrit sa présentation comme essentiellement une investigation dans comment les pratiques du fandom à l'ère numérique permettent-elles aux adolescentes fans de récupérer le pouvoir politique de l'industrie de la musique populaire qui profite un peu de leurs exploitations depuis sa création. En étudiant une lignée historique de la diffamation des pratiques de fandom de ces jeunes femmes dans le domaine de la musique pop, ses résonances sont claires dans la honte induite qui continue aujourd'hui. Elle soutient que l'indétermination de la culture postmoderne des fans, que Patrick Galuska a qualifié de la nouvelle économie du fandom, perpétuée par les médias sociaux, permet une nouvelle forme d'engagement entre les femmes et entre les fans et les artistes, les fans et les autres fans, les fans et l'industrie de la musique, ainsi que les fans et la société en général. Donc, on va l'écouter, une conversation que j'ai eu vraiment la chance d'avoir avec Megan Lapierre.
My name is Megan Lapierre, and I'm a master's student at Queen's University in the Cultural Studies program, just the first year of it, so I'm still very much an academic toddler. But it's been amazing to be exposed to so many different interdisciplinary connections already. I'm still a little bit all over the map in terms of what I'm specifically studying. I come from a literary background, so I majored in English in my undergrad.
You do?
Yeah.
We're fine.
Amazing. So I am initially kind of started engaging with music through that. I mean, I double minored in music and psychology, so I've always been just scatterbrained. But I kind of started writing about music from a literary perspective and kind of looking into musical representation in literature and how people were trying to relay like this so-called unrelayable, ineffable music in words. And then it kind of has spiraled into this little divot that I presented here, which was about female fan practices, which kind of actually just came out of a popular music and gender seminar. It just started writing the paper and then it took many different permutations and got it to what it was for the presentation, where I kind of ended up hinging it on psychology in the sense that I've gotten into Brené Brown recently and mm-hmm. her shame resilience theory. And I really think that these young women through their fan practices that are highly stigmatized and marginalized and told are weird and excessive, they kind of do develop this shame resilience through fan communities, especially online, and like joining up with each other and kind of getting that not only just mutual appreciation for the artist, but also like the mutual experience of the shaming that goes with it. And they kind of find like sanctuary there and like develop empathy. And I think it can be really powerful. And I also just feel like we don't talk about shame enough. So
I never heard about that theory. It's super interesting.
Honestly, she's kind of becoming like it's very pop psychology at the time. Like she just has a Netflix special out, actually.
Really?
Brené Brown. Yeah. Yeah. And she has two TED Talks. One of them is the title is something to do with vulnerability anyway. And it's been one of the most viewed TED Talks, I guess.
Wow.
But yeah, I'm very new into it too. But like I kind of stumbled upon it and was like, oh my God, yes, this is it. But initially just like through her scholarly work, because she is a scholar.
Uh-huh.
But yeah.
Do you apply it only towards music, or are you looking... You started off in lit, and now you're going towards music?
Well, I kind of was always juggling it, but I never thought that I could actually, like, pursue music, because I'm just like, I can't play things. Like, I'm not talented, but I love... Like, I just knew, like, through English, I was just like, I want to write, but I keep seeing, like, literature as, like, more of the medium for me now, and... music as the topic.
Okay.
I think I'm solid on that, but I am still really interested in language and like how language and music converge and diverge, and I'm still, again, all over the place, but...
Do you do like deep readings of lyrics and text and stuff like
that? Yeah, I've always been like super fascinated and more drawn to things like with lyrics. I've been trained in analyzing poetry, so analyzing lyrics is like the next thing. It's so interesting to me, and I've also been really into like intertextuality in music, especially like when people will reference other specific songs, or even, I mean, people reference literature all the time too, but mm-hmm. like musicians referencing other musicians' work and how that like recontextualizes the song is something that I'm also really interested in.
Do you have like specific artists that you really enjoy working on, like certain writers or authors, or
That's been the thing. Like I'm still just very much feel like I have only dipped my toes into figuring out like what writers I want to work with, but I'm really like I'm drawn to pop music because I just think it's, I don't know. It's just, it's given such a bad rep, and it doesn't deserve it. It's popular for a reason, and it can mm-hmm. be so powerful. And I just, yeah, I love like pop music that deviates a little bit. I think most of it does, but sometimes it's really minuscule ways because you can't push that public audience so far. But no, I'm still working on it. I've always joked that I would write a thesis on Carly Rae Jepsen. But
oh, yeah, why not?
Yeah, I mean, could happen. That's just what I'd like to tell like white boys that would be like, so what music are you into? It's wild, and it's just, it's such, like, people are always like, keep your professional and private life, like, and those interests divided, but I'm just like, how do you live that way? And, like, how can you work on things that you aren't passionate about? And
for 3 to 4 years.
Exactly. Like, I'm like, that's such a commitment. That's like getting married, a very short-term marriage, but it's still, like, a long time.
So what have you found out about the cultural studies in music fandom for women? Because it's your title is huge. There's a lot in there.
There's so much, and that's kind of been the problem. Like, shortening this for this presentation was so difficult. But I think what I really just wanted to start about, like, looking at the historical lineage of, like, the vilification of female fan practices, and especially, mm-hmm. like, the figure of the groupie, and I kind of wanted to, like, dismantle that and, like, destigmatize it. And it's just like, oh, the whole thing was just, like, a gatekeeping technique to keep women from being, like, meaningfully involved with music, essentially, like, as fans, as musicians themselves, because rock, all the musicians were men for the most part. So, yeah, that was kind of what I really first wanted to get into, and then I wanted to see how like fan practices had evolved in the digital era, to see how fans are like so much more active and participatory, and they always have been, but now it's on a global scale.
the scope is so much
it's crazy, but and just like to like. Have that kind of asylum too for people that feel like alienated by their fan practices, because it's not cool to like things that are like popular and mainstream, and that's a negotiation that women always have to deal with, because like this stuff is like literally packaged and marketed at you for you. Mm-hmm. Like Simon Cowell puts together a boy band and like shoves it at you, like you're supposed to just take it and say thanks, but they always have to negotiate with that, whether even if they are really drawn to it, they have to kind of find ways to play with it a little bit and kind of subvert it. before they decide whether or not they're going to accept or reject it. And even then, there's like a little trepidation, like always, even just like, yeah, I'm accepting this, but like I know what people are going to think.
Mm-hmm, yeah. Oh, wow, that is so interesting.
It's really rich, and like, I'm just like, wow, this is like a full thesis type of thing. And I just, I don't know if it'll be mine, but I think it's work that should be done because it's important.
So from the groupie, what figure are you seeing emerging in the actual climate?
Oh, that's a really good, interesting question. I wanted to use the word fangirl a lot because like it's always kind of thrown around.
Yeah, it's
like,
and it's a great term.
It is. And I mean, fanboy exists too, so we got to have both sides represented. But fan people.
But in my regard, this is something like, I don't know if you've heard the Orlando Jordan's rant about fangirling.
No.
You need to listen to this. It's super interesting. And I'm really surprised that Orlando Jordan did something so interesting. He was doing it in the press bracket for American Gods. He's basically showing how fangirl is the connotation to fangirl is extremely positive when compared to fanboy.
That's true too.
And so he really like, and he goes up to, he goes all the way to saying, I prefer to be associated to fangirl. I prefer people calling me fangirl than calling me fanboy. And he's absolutely right. His argument is so well done because the idea of gleefully accepting something.
Right, it's not masculine at all, right?
And the idea of the masculine fanboy has there's a lot of baggage around like social ineptitude.
Exactly.
Peter Pan syndrome and all those things that men, like when I heard that, I was like, okay, I'm fine with fangirl now.
Yeah.
We're really trying to push away from that one. So
And like the whole fanboy paradigm is like a whole other layer that could be added onto this because it's so big. And like, that's been something I've been thinking about too. Like, I'm like, yeah, I want to include that. And I want to include like queer fandom as well. But I really think it honestly comes down to people are just like, well, we need to shame women, but it's more socially acceptable if we do it because their fan practices are like...
Well, we'll shame the fan practices.
Yeah.
We'll attack that so that we're not directly attacking women.
Exactly. So it's like a more indirect way, but like all of their fan practices, like in everything that people, and especially the media, because I feel like that has been a huge aspect of like perpetuating like this image of the crazy fan, like it's fully feminized traits of it that are the ones that are condemned. So if it's honestly just like, oh, they're overly emotional. And it's again going back to like associating women with being over emotional and men being rational and intelligent. And so the ideal fan is like a rational, intelligent person just being like, yes, this is good. I think.
Removed, detached.
Exactly.
Which is not true at all.
No, exactly. And it's just not a way, like, why, how is that even a thought that, so like, what else are we supposed to do? But I think it's also that it's just like people don't know how to contain that kind of energy, and like it scares them. And especially in such large masses as today, it's an intimidating thing.
Absolutely. I think that's really smart, is the idea that it's so huge and all-encompassing that people are unable to contain it. I feel you're right. There's no tools to be able to measure that, but it...
Exactly. But, like, you just, you know it's there, and, like, you see it when, like, you get footage from shows, and just, like, oh, there's an entire arena full of these young women. When they all get together, you can actually see it and visualize it, and those are, like, the images that the media puts out of just, like, people crying over Justin Bieber or whatever. And it's wild to me because I'm just, like, I feel like... Like the power of like these communities has just like always been suspected, and that's why like trying to have the pushback so hard. Yeah,
and there's a lot of, you know, like the words that are thrown around is like loss of control, and
exactly,
but it's not the case at all.
No.
You know, a crowd of women will somehow be more vulnerable than a crowd of men, which is also not true at all.
That's the thing too, and like that's the thing with Brené Brown's shame resilience theory is about, like, it's about vulnerability and about kind of fostering it and kind of acknowledging that, like, when you're feeling shame, like, that came from a place of vulnerability, and vulnerability should be valued instead of, you know, being people saying that it's equating it to weakness, essentially, which is, again, just not like a way to live life. Like, we have nothing if we aren't able to be vulnerable.
And passionate and exactly. communicative and
and all these feminized things. And so, like, and that's just, it just makes me all the more like interested in looking at the male side of things and just seeing like, and again with queer, and just to look at it from all the different perspectives. But like, I'm just like, I don't have several years of my life to put aside for this.
You're doing great work. But what are you looking at primarily? Is it mostly like the person's interaction with an album in their home, or communities around an album, or live shows, or because there's a, in the musical practice, you can see different environments.
Exactly. I think I'm mostly interested in the online communities because I feel like that's, I mean, it's the most accessible for me as well, but it's also just like kind of the new dimension of it that has been added in the digital era, right? So, I mean, people have always had fan clubs and just been fans together and flocked the streets for the Beatles, but now we have the internet and social media too. It just makes it so much more convenient, and it just makes it so much more integrated into our everyday lives too, that it's not just this once in a while occasion of like this band coming to town. Like, mm-hmm. this is just an ongoing thing
every day.
Yeah.
And circle of friends and circles of interpretation and stuff, so everything. It's a very all-encompassing activity.
Exactly. And again, that is that is what people see as the problem.
No.
Yeah, well.
I just like, once in a while, I you just need to say it out loud.
Yeah.
Just because it has to be said. It's just, no, it's not a problem.
No, it's not a problem. It's fine. We all turn out fine.
Yes, we do. We're in academia now.
Yeah, look at that. This is fangirls in academia.
Do you, like, it's absolutely fascinating. You've already started, like, suggesting texts. Do you have other texts that people should be reading or
ooh,
paying attention?
Oh, gosh. I feel like I've looked at so many that they're all kind of blurring together for me. There's a scholar named Anita Harris who looks at, it's a little bit dated now, like, it was about 10 years ago, her stuff, but, like, kind of just, like, online subcultures, and especially, like, women engaging with them and how, like, again, she speaks to how, like, they have to negotiate with commercial culture, and just how they have to, they've been posed as these ideal consumers, but they want to be producers. And in the digital era, it's possible. And, like, that line is so blurred in fandom now. People are always producing new texts surrounding the initial text.
Mm-hmm.
Yeah.
This is a weird conclusion question, but I feel...
Let's go with it.
What do you think of Billie Eilish?
Oh, my gosh. I'm fascinated by what she's been able to do, first and foremost. And just, honestly, I feel like I really haven't ever fully delved into her story, but I know so much of it just generally because it's just so circulated. But personally, I enjoy her music. I think it's... really innovative and interesting, and just, and the fact that it's just like her and her brother making this in their parents' house, like, it's just like the embodiment of like how the music industry has changed over time and with the technological developments. And honestly, the only people I see like that aren't into it are just like, you know,
music snobs.
Exactly. that's it. Like, I don't understand. I'm just like, why are you upset? And like, she is like, she's 17 and just like so incredibly poised and so incredibly aware. Like, I read recently that she dresses the way she does because she doesn't want to be sexualized. And I'm just like, you are 17. And like, the amount of critical awareness people are able to have like in the information age, like growing up, is so crazy. And like, even just like my generation compared to the one before me, like, I feel like I'm just like, yeah, I grew up when I was a teenager when social media was just starting to take off. And like, that's how I learned about things like feminism. Like, how else do you get that information? But now it's just becoming such popular knowledge, and it's really amazing. And I think powerful things can come from it.
And do you feel like there's a, sorry, that was not a conclusion. do you feel there's like a chain of artists that are developing better skills at navigating this complex territory? Like, I feel like Billie Eilish is something, mm-hmm. Beyonce is something, Taylor Swift, and every artist that follows up is a step forward, creating better defenses in this media world that's pretty complex for women. And do you feel like there's a progression? Do you feel like everyone's stepping in and adding something to the woman artist's defensive gear or creation of image or artist as empire, like we've seen a lot with Nicki Minaj, who's completely in control of what she's doing?
Exactly. And yeah, I definitely do see that. And it's like, it's so hard to kind of even just like point to examples, but like, I feel like there's a general feeling, and maybe that's just like the optimistic side of me, that it's just like, yeah, people are like, I mean, you have no choice but to adjust. And I think people are more able to be kind of in control of what they're doing too. Like,
like women artists are evolving, although I don't want to give like an objective.
No, but I
where
feel
men
like
artists aren't.
I mean, it's kind of more of the same in a lot of the ways. I don't want to generalize too much, but yeah, it's still like just, you know, a guy with a guitar. Like it's all pretty much the same, but No, I still think there's innovation coming out of that side, and especially again with queer artists and exactly. So yes, but I don't even know how to like put that into words or to sum up and be like, this is proof of that. But
no, you're right. You're right.
There's like a general sentiment of that happening, and it's exciting, but it's also like so necessary. And even mentioning Taylor Swift, like when she made that political post on Instagram, like that was, again, it was a huge example to me of like fangirl shaming too, because everybody was just like, your fans are 14, like they can't vote. I'm just like, no, they're not. They're legitimately not. Like, people that were 15 when 15 came out are in their 20s. Like, it's
you're right.
It's just a fact.
C'est tout pour aujourd'hui. En fait, c'était les deux panels qui ont été faits. En fait, je les ai un peu mis ensemble parce qu'il y avait des thématiques qui se reliaient. J'en ai une autre. J'ai un autre enregistrement qui s'est fait autour de l'industrie du hip-hop et de la réception et de la création. Donc, je vais probablement faire ça dans pas trop longtemps. Mais si ça vous a intéressé d'entendre un peu plus parler de la théorie de la culture populaire musicale, ben faites-nous le savoir. On va pouvoir peut-être creuser ce sillon-là un peu mieux pour l'année 2020. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine.
Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales
et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste
et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire.
Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
A genuine person yourself, if I